Radio Stabile.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, l'escale reportage d'un jour dans le monde vous emmène aux États-Unis. Je vous emmène surtout à la rencontre de la plus célèbre des avocates féministes américaines, la bête noire des Trump, des Weinstein, des O.J. Simpson, des Bill Cosby. Elle s'appelle Gloria Allred et vous verrez qu'elle voit rouge le plus souvent possible. Ce soir aussi, Florence Paracolos en Iran avec des voiles blancs et une histoire de Botox aussi sur des chameaux. 18h50, des nouvelles des médias avec sur la planète avec Dorothée Barba et le pape notamment qui assure que le serpent de la Bible, eh bien, c'est la première fake news inventée au monde. Mais tout de suite, on entame l'année russe sur France Inter avec les hommes du président, les hommes autour du président russe. A tout de suite, le monde est vaste et on n'a qu'une heure.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
C'est Vladimir Poutine qui annonce sa candidature, c'était sans surprise, le 5 décembre dernier à Moscou. Et donc, dans deux mois, pas tout à fait jour pour jour, mais on ne va pas chicaner, la Russie organise son élection présidentielle. Et à ce stade, on ne voit pas bien comment Vladimir Poutine pourrait ne pas être réélu puisqu'il est tout seul ou quasiment. Ce sera le 18 mars, Poutine saison 5, puisque si on se résume, entre chef du gouvernement et président, Vladimir Poutine est dans la vie des Russes depuis 1999. Et c'est ce fil-là qu'on a envie de remonter ensemble ce soir. Bonsoir Mikhaïl Zygar.
Hello, good to see you.
Merci beaucoup. Alors c'est une somme, Mikhaïl, que vous publiez, ça s'appelle « Les hommes du Kremlin ». On passe avec vous en revue tout l'entourage de Poutine, ce qui nous aide à comprendre le personnage, surtout ce qu'il a en tête. Est-ce que c'est que la poutinocratie, si vous me permettez l'expression, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une poutinocratie, Mikhaïl Zygar? Est-ce qu'il y a un système de gouvernement à lui tout seul chez ce Vladimir Poutine?
Yeah, actually... It's very important to understand that Putin is not the only man to run the country.
Que Poutine n'est pas le seul à diriger le pays. C'est plus un système qui dépend de lui. Il y a beaucoup de gens qui tentent au quotidien de deviner un petit peu ce qu'il pense, qui tentent de lire son esprit et de remplir tous ses desiderata. Et en même temps, lui dépend beaucoup d'eux. Parce que lui, il dépend d'eux pour recevoir toute cette information. Il sait qu'il doit être populaire au sein de cette énorme bureaucratie russe. Et c'est un système beaucoup plus compliqué qu'un homme qui dirigerait un autocrate qui dirigerait le pays.
Mais vous dites, il faut que autour de lui, les gens devinent ce qu'ils pensent. Est-ce que ça veut dire finalement qu'ils ne décident rien eux-mêmes? Ils ne sont là que pour porter la parole de Poutine et lui expliquer comment les gens réagissent? Et surtout, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils pensent puisqu'il faut deviner?
Oh, you know, that's very interesting because
probably c'est ça qui est très intéressant.
That's the consequences of his old years in KGB.
C'est la conséquence de ses anciennes années au KGB. Il ne dit jamais rien directement. Il peut dire des choses comme ça. Il dit des choses complètement différentes à des assistants différents.
He can give one of them carte blanche, and
à certains d'entre eux, il donnera carte blanche, et dans le même temps, il dira à d'autres assistants qu'il est interdit de faire la même chose. Il tente, si vous voulez, d'organiser des courses de rats, en quelque sorte, parmi son entourage.
Parce que c'est fascinant quand on vous écoute, et vous le rappelez d'ailleurs, quand on se souvient que, et d'ailleurs vous le dites, il est arrivé par accident, Vladimir Poutine. Il fallait trouver un successeur rapide à Eltsine, donc il y a un micmac qui s'est fait à la tête du pouvoir. Est-ce que ces gens qui le portent au pouvoir avaient la moindre idée de ce qu'allait devenir le Vladimir Poutine qu'on connaît aujourd'hui?
Definitely not, and we know that all those people who
savons que tous ces gens qui ont tenté d'en faire un président, certains sont déjà morts, comme Boris Berezovsky, l'oligarque très célèbre qui s'est donné la mort il y a quelques années en exil à Londres. D'autres, comme la famille d'Eltsine, de Boris Eltsine, ne diront jamais en public qu'ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé avec Poutine. Ils ne sont pas contents, en fait, de ce qui se passe. Et ils l'ont sous-estimé. Ils ont pensé qu'il pourrait le contrôler. Et durant les premières années de son mandat présidentiel, il était très coopératif. Il n'avait pas son propre programme. Et il a commencé les réformes qui avaient été planifiées par la famille Yeltsin et par les libéraux, par l'administration libérale. Et puis, il a commencé à changer. Et voilà, il est arrivé après un long, long voyage à ses positions d'aujourd'hui.
Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de dessein au début. Lui-même, finalement, ne savait pas très bien où il était. Vous dites d'ailleurs que finalement, c'est quelqu'un qui répond au stimulus extérieur. Ça veut dire qu'en fait, il gouverne au fil des choses qui se passent sans réellement avoir un plan à plusieurs années. En tout cas, pas à ce moment-là, au moment où il prend le pouvoir.
Exactly. That's one of the most important ideas of that book.
Exactement. C'est une des idées maîtresses de mon livre.
Not day by day, but
c'est pas au quotidien certainement, mais très souvent, il changeait d'idée après avoir reçu d'autres stimuli ou dans des circonstances différentes. Je vais vous donner un exemple extrêmement bref. Au début de sa présidence, il répétait sans cesse au Kremlin. Il faut que l'on fasse quelque chose pour l'Ukraine, sans ça on va la perdre. Il ne faut pas qu'on perde l'Ukraine. Il faisait toujours très très attention au sujet de l'Ukraine, parce qu'il voulait qu'elle reste proche. Et maintenant, on voit que sa tactique a complètement échoué. La Russie a perdu toute possibilité d'avoir de bonnes relations avec l'Ukraine.
Ce qui est fascinant dans ces changements, effectivement, quand on lit votre livre, on se rend compte qu'au début, Vladimir Poutine, par exemple, était finalement très pro-européen. Il s'est approché de Tony Blair extrêmement rapidement et plutôt de très près. Il était même pro-américain, il était proche de Bush, ça a été le premier à l'appeler après le 11 septembre. Est-ce qu'à ce moment-là, il pensait vraiment qu'il pouvait travailler avec ces gens-là, ou est-ce qu'il y avait, encore une fois, quelque chose derrière la tête de Poutine?
Au début, il croyait véritablement qu'il pourrait faire ami-ami avec eux, que c'était très très important d'avoir des relations amicales avec ces gens-là. Mais en même temps, il voulait être respecté. Et il pensait véritablement qu'il pourrait être traité en partenaire sur un pied d'égalité. Mais malheureusement, ce sentiment n'était pas mutuel. Par exemple, selon George Bush, la Russie n'a jamais été considérée comme une superpuissance. Selon George W. Bush, la Russie, c'était comme un autre pays européen, comme une grande Finlande, en quelque sorte.
Mais ça veut dire que Bush aussi a pensé, qu'il pouvait manipuler, puisqu'il l'a dit lui-même, il a dit « Je pense qu'on peut travailler avec ce Poutine, exactement comme Thatcher, à une époque, avait dit « On peut travailler avec Gorbatchev ». Donc ça veut dire que les Américains ont essayé de manipuler ce monsieur et puis se sont retrouvés face à un mur, visiblement.
Yes, definitely George Bush underestimated Putin because.
À l'évidence, George Bush a sous-estimé Poutine. Au début, il y a une histoire extrêmement intéressante. Lorsque Poutine voulait impressionner George W. Bush, en expliquant que c'était quelqu'un de très religieux, tout comme George W. Bush, Bush l'a cru. Il a dit qu'il l'a vu dans ses yeux. Et il pensait que Poutine était beaucoup plus simple qu'il ne l'était en réalité.
According to Vladimir Putin,
et selon Poutine, il a commencé à penser qu'il avait été trompé par Bush. Il n'a pas vu qu'il était respecté. Ça l'a insulté par l'histoire de l'OTAN, de l'Irak, par exemple. Bush est entré en Irak sans le prévenir. Et ils ont perdu ce lien d'amitié.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand même pour qu'on passe de ce Poutine-là au Poutine qu'on connaît aujourd'hui? Vous l'avez un peu dit, c'est un personnage totalement paranoïaque qui émerge en fait, et qui est persuadé que tout l'Ouest lui en veut. Mais à quel moment il fait ce passage-là, Vladimir Poutine?
Il y a eu plusieurs vagues de cette paranoïa. La première, la plus importante, c'était la révolution orange en Ukraine en 2004, lorsque Yanukovych, le candidat pro-Kremlin, a perdu contre Yushchenko.
Putin allocated a lot of money into that electoral campaign.
Il y a eu beaucoup d'argent russe qui avait été investi là-dedans. Beaucoup de spin doctors qui avaient russes qui avaient aidé Yanukovych.
They could not confess that they have stolen all the budgets.
Avouer qu'ils avaient bouffé tout le budget, qu'ils n'avaient pas été efficaces.
They are to blame for
que c'était
the failure.
Eux qui devaient être responsables de cet échec. Et donc, ils ont commencé à raconter que c'était les Américains qui avaient investi beaucoup plus d'argent contre le candidat russe, qu'ils avaient investi tellement d'argent dans le soutien de Yushchenko que eux, les pro-russes, ne pouvaient pas résister. Et c'était le début de cette première vague de paranoïa. Et puis après, il y a eu le printemps arabe. Et puis, une autre révolution en Ukraine. C'était un coup pour Poutine encore. Et maintenant, il est absolument certain qu'il y a une énorme conspiration contre lui, contre la Russie. Et lui, il considère la dernière révolution ukrainienne comme une attaque contre la Russie.
Je voudrais qu'on avance un petit peu. Il y a des scènes qui sont formidables dans votre livre et que vous racontez, notamment cette partie de pêche complètement surréaliste avec Medvedev. Ils sont tous les deux en train de pêcher. Medvedev, ils ont déjà fait le switch, en fait, où Medvedev devient président pendant que Vladimir Poutine, lui, est Premier ministre. Et puis, il va falloir faire le switch dans l'autre sens. Mais visiblement, Medvedev, lui, n'est pas du tout au courant de ce qui est censé se passer. Et Poutine lui lâche, comme ça, tout de go, « Je suis l'homme politique numéro un, tu occupes la deuxième place, et point. »
Yeah, that's really a historical moment when.
C'est un moment historique.
When Medvedev freely for the first time probably
by the end of his presidential term, première fois à la fin de son mandat présidentiel, avait plaisir d'être un dirigeant russe.
Mais ça veut dire qu'il y a cru. Il a cru qu'il pouvait continuer, Medvedev.
He believed, yeah.
Oui, oui, il y a cru.
He started adoring that image of liberal politician,
adorer cette image qu'il avait de réformiste, d'homme politique libéral. Et il a commencé véritablement des réformes. Poutine a été très bousculé par le printemps arabe. Il a été effrayé par la chute de Kadhafi. Et il expliquait à Medvedev que c'est trop dangereux, que Medvedev était trop faible, qu'il ne pouvait pas résister aux Américains. Et c'est pour ça que Poutine croyait qu'il était et qu'il est toujours le seul capable de sauver le pays. Et c'est probablement ce que croient les Russes. Et c'est beaucoup de gens dans le premier cercle de Poutine qui croient à ça, que Poutine est le seul.
Alors, il y en a un autre qui croit qu'il est le seul, et c'est Navalny que vous avez rencontré, le fameux opposant qui fait des allers-retours réguliers en prison, dont on sait qu'il voulait se présenter à cette élection et qu'il s'en trouve interdit. Et on a l'impression que lui aussi est étonné du personnage de Poutine, en fait, et vous le citez d'ailleurs disant « Je ne savais pas qu'il irait si loin, y compris dans la répression des opposants ». Ça veut dire que même les opposants n'ont pas vu le vrai visage de Vladimir Poutine, ou en tout cas pas tout de suite.
The change was really dramatic, especially,
le changement était véritablement dramatique après les manifestations de rue en 2011-2012. Quand beaucoup de gens des classes moyennes, beaucoup de gens de la bourgeoisie éduqués ont commencé à protester contre le retour au pouvoir de Poutine, et Poutine était furieux parce qu'il pensait que ces gens-là devraient le soutenir, ils devraient le remercier pour leur propre prospérité, ces gens-là. Et il a eu une grosse déception au sujet de cette trahison. Et c'est le moment où il a changé son intérêt pour la classe moyenne russe, et il s'est intéressé plus à la classe ouvrière russe. Il n'est plus intéressé par les gens instruits. Il n'essaye plus d'impressionner les riches en Russie. Il essaye de parler directement aux gens simples. C'est pour ça qu'il est devenu beaucoup plus nationaliste. C'est pour ça que il a pris un nouveau look et il revient à l'imaginaire de cet empire russe qu'il recrée.
That is a mixture of
ce mélange de
I call it Christian Stalinism.
de stalinisme chrétien, c'est ce que j'appelle le stalinisme chrétien. Personne n'aurait pu imaginer que Poutine irait aussi loin.
Et alors justement, d'ailleurs, du coup, la politique de la terre brûlée fait que derrière, il n'y a personne, et on le voit là, d'ailleurs, il n'y a que lui qui peut se servir lui-même, et ce que vous disiez, et ce qui est même impressionnant, c'est que même en Russie, on dit, finalement, peut-être qu'on s'en sortira lorsque le signe noir s'envolera, ça veut dire que c'est un peu comme le Voldemort d'Harry Potter, on prononce même pas son nom à ce Vladimir Poutine, en se disant, de toute façon, il ne se passera rien tant qu'il sera là.
Beaucoup de gens des cercles intérieurs ont peur même d'évoquer sa mort. C'est probablement le signe qu'à un moment, il va plus être là, quand il sera plus président.
According to the Constitution, the next presidential term is should be his last one.
Many people do not believe la dernière élection présidentielle ferait que ce serait son dernier mandat. Peu de gens croient qu'il va nous quitter complètement. Mais les gens ont vraiment peur qu'après la prochaine élection présidentielle, il va rebattre les cartes, il va commencer à jeter certaines personnes, il va préparer le terrain pour une transition, et les gens ont très peur de cette transition-là.
Voilà, bah chaque chose en son temps. L'élection, en tout cas, c'est le 18 mars prochain. Le livre, il est passionnant à lire, ça s'appelle « Les hommes du Kremlin dans le cercle de Vladimir Poutine ». C'est signé Mikhaïl Zigar aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup, merci mille fois de votre passage dans un jour dans le monde. Merci beaucoup et merci Michel Zotowski, comme d'habitude, pour la traduction.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le
et
monde.
Et la suite d'un jour dans le monde avec la bête noire de Trump, de Weinstein et d'autres, l'avocate la plus mordante et célèbre des États-Unis que Valérie Cantier a rencontrée au festival Sundance. À suivre aussi du Botox pour rendre plus lisse la peau des chameaux, mais oui. Et puis les médias à 360 degrés, Dorothée Barba, le nez dans la Bible alors.
Oui, la Bible, on parlera de fake news, il y en a plein la Bible, paraît-il. Oui.
C'est le pape qui le dit.
Exactement.
C'est ça qui est fou.
Il y aura aussi un chat et une girafe, mais pas de raton laveur dans cette chronique.
Très animalier, en tout cas. Le tour du monde continue à tout de suite. Voici Johnny Clash et Joe Strummer, Redemption Song.
Exactement.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it, we got to fulfill the book. So won't you help to sing
these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs,
all I ever had,
redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
Redemption Song, Johnny Cash et Joe Strummer. Repentez-vous, Florence aussi.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence Paracuello sous les radars, donc fidèle au poste. On commence avec un appel relayé par les réseaux sociaux iraniens.
Recherche une femme désespérément. Elle a disparu après avoir agité son voile au bout d'un bâton. Elle se tenait debout sur une armoire électrique en plein centre de Téhéran. C'était à la toute fin décembre, au moment des manifestations contre le régime iranien. Pantalon et sweat noir, tête découverte. Le voile au bout de son bâton est blanc comme celui qu'arborent d'autres femmes depuis des mois, tous les mercredis. C'est un mouvement de protestation contre l'obligation de couvrir ses cheveux. Elle ne dit rien, elle reste silencieuse. Et la scène, filmée, a fait le tour du monde. Le profil de cette femme aux longs cheveux bruns, droite comme un i, est devenu emblématique. Et aujourd'hui, les Iraniens, et puis surtout les Iraniennes qui aspirent à plus de liberté, ont une question sans réponse. Où est-elle ? Un hashtag en persan est repris sur Twitter. On ne connaît même pas son nom à cette femme. On sait juste qu'elle a été arrêtée. C'est une avocate qui l'a confirmé à la BBC, qu'elle a 31 ans, un enfant de 20 mois. Où est-elle ? Pour appuyer la question, des femmes se filment dans les rues de Téhéran, sans voile. Parfois très discrètement, comme cette femme qui chuchote qu'elle a entouré son voile autour de son cou pour soutenir la fille de la place de la Révolution, c'est comme ça qu'elle l'appelle. D'autres le font de manière plus assumée. Là, c'est une jeune mère avec son bébé dans les bras. Il a sans doute le même âge que celui de la disparue. Je m'avance avec mon bébé pour demander où est-elle. Le hashtag a une semaine. Il a une déclinaison en anglais. Where is she? On verra si ça finit par faire pression sur les autorités iraniennes.
Très émouvant, en tout cas, le murmure dans la rue, Florence. Allez, halte au mauvais traitement des Philippins au Proche-Orient. C'est le président des Philippines, Rodrigo Duterte, qui pousse un coup de gueule.
Trop de morts, trop de viols, trop d'esclaves chez les 2 millions de Philippins employés comme domestiques au Moyen-Orient. Il s'adresse, Rodrigo Duterte, plus particulièrement au Koweït. Il interdit désormais aux Philippins d'aller travailler là-bas à cause des violations des droits de l'homme. Alors c'est une notion à géométrie variable pour Duterte, parce que c'est le même homme, souvenez-vous, qui demande à sa population de tuer tous les drogués. Pour revenir à ces Philippins du Golfe, il pourrait aller encore plus loin.
Encore un incident, une seule Philippine violée ou qui se suicide, et on arrête tout. Ce sera l'interdiction totale. Je suis désolé pour les Philippins qui travaillent là-bas, mais ils devront rentrer chez eux. Rentrer chez eux, voilà, c'est pas rien comme menace. En premier lieu pour les Philippins, parce qu'ils rapportent des milliards de dollars au pays, ces 2 millions de Philippins qui travaillent dans le Golfe. Et ça, Duterte en est tout à fait conscient, mais peu importe, écoutez-le, il s'adresse directement aux autorités koweïtiennes et plus globalement au pays du Proche-Orient. Je vous demande seulement de traiter mes concitoyens comme des êtres humains, avec dignité. Nous sommes pauvres, c'est vrai, nous avons besoin de vous, mais on ne laissera pas bafouer la dignité des Philippines. Ben voilà, on sait que vous nous rapportez de l'argent, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Un étonnant discours de lucidité et de vérité de la part de ce président philippin, Rodrigo Duterte.
Voilà, Duterte, que je puisse le prononcer au moins une fois correctement. On reste dans le Golfe Persique, Florence, en Arabie Saoudite cette fois, avec une histoire de tricherie dans un concours de beauté. Ça vous plaît beaucoup,
et
ça ?
Et oui, ça s'est passé au concours annuel du plus beau chameau. Scandale, cette année, 12 bêtes ont été disqualifiées, leur beauté jugée pas assez naturelle. Effectivement, ils ont été botoxés. Bah oui, ça marche aussi chez les bêtes. Du botox dans le museau pour gonfler les lèvres, la mâchoire, la truffe, le nez. Ça alors. Oui, alors les chameaux n'apprécient pas.
Mais on sent bien cette colère.
Les chameaux n'apprécient pas. Il paraît que ça leur fait très mal.
Mais les pauvres. Et mais ouais. Sérieusement, je ne plaisante pas du tout.
Et à quoi ça sert de faire mal à son chameau et d'avoir le plus beau chameau d'Arabie Saoudite ? À quoi ça sert, Fabienne ?
Ben, c'est pas ça rapporte, non ?
Oui, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
57 millions de dollars pour le premier prix, d'où cette petite tentative de tricherie.
À ce prix-là, il pourrait aussi refaire le nez et les pommettes aussi
exactement.
Au chameau pour 57 millions. Allez, merci Florence Paracoulos, sous les radars, tous les jours dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Media House.
And a lightning rod for controversy.
Et ce soir, le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène aux États-Unis à la rencontre d'un personnage réellement. C'est elle que vous entendez là au-dessous de moi parce qu'elle fait l'objet d'un documentaire. Tout le monde ne fait pas l'objet d'un documentaire qui sera diffusé mondialement sur Netflix. Elle s'appelle Allred comme tout rouge, Gloria Allred. Et elle voit rouge en effet cette féministe qui est peut-être l'avocate la plus connue des États-Unis. Bonsoir Valérie Cantier.
Bonsoir.
Vous l'avez rencontrée cette femme à l'occasion du festival de Sundance dont vous revenez. Un festival qui est était réservée aux femmes de pouvoir, c'est elle qui était mise à l'honneur. Gloria Allred, les Trump, les Weinstein, les O.J. Simpson la détestent et même Valérie la craignent.
Oui, on pourrait dire même que Gloria Allred, c'est une sorte de rouleau compresseur. Elle est basée à Los Angeles et elle s'attaque aux plus puissants, aux riches, aux célèbres depuis plus de 40 ans maintenant. Elle a même eu son personnage dans les Simpsons et dans South Park et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Elle organise des conférences de presse, apparaît sans arrêt dans les médias aux côtés de ses clientes et ses clientes, eh bien, elles sont souvent en larmes à ses conférences de presse. Elle, elle leur tient la main, mais elle, en revanche, elle ne pleure jamais. Écoutez-la.
Le pouvoir ne comprend que le pouvoir. La peur a été une arme utilisée pour réduire les femmes au silence pendant trop longtemps. Ça maintient les femmes subordonnées, paralysées. On ne peut plus se permettre ça. Avoir peur coûte plus que si l'on brise le silence. Et ce qu'on voit maintenant, c'est un tsunami de femmes qui s'expriment, disant « Je ne laisserai pas la peur contrôler ma vie. Je vais faire entendre ma voix, je vais avancer. » Et c'est à ça que je travaille. Passer du statut de victime au statut de survivante et enfin au statut de combattante pour le changement. Tout le monde peut faire quelque chose. Je ne peux pas faire ça toute seule. Tout le monde peut agir pour le changement.
Alors il faut savoir, Valérie, que Gloria Allred, elle défend plusieurs femmes. On va probablement en entendre parler, qui accuse Donald Trump d'agression sexuelle.
Oui, carrément, le président américain. Elle les a d'abord défendus pendant la campagne présidentielle, notamment cette candidate de l'émission télé de Trump, The Apprentice. À la suite de ces accusations, Trump l'a carrément ridiculisée sur les chaînes de télé, l'accusant bien sûr de mensonge. Du coup, trois jours après l'élection présidentielle, Gloria Allred organise une conférence de presse avec sa cliente de nouveau et annonce cette fois-ci qu'elle poursuit Trump au pénal.
Le président a répondu qu'il avait l'immunité. Nous répondons que non, car la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Paula Jones contre Bill Clinton, dit que aucun homme n'est au-dessus de la loi, y compris le président des États-Unis, lorsque ce qui s'est passé est un acte non officiel. Nous disons que si nous pouvons prouver qu'il a porté atteinte à ma cliente, c'était avant d'être élu, donc c'était un acte non officiel, et nous devrions pouvoir le poursuivre. Un autre argument de ses avocats est de dire qu'il est très occupé. Nous avons répondu que nous respecterions son agenda et que nous serions même prêts à recevoir son témoignage, sous serment, à Mar-a-Lago, pendant ses séances de golf.
I decided I wanted to support the protesters. But then I also saw very strong supporters, very vocal supporters of President Trump.
Alors, ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est l'une des scènes les plus marquantes du film qui, effectivement, est présenté à Sundance. Alors, cette scène a lieu lors de la manifestation à Washington après l'élection de Trump, la manifestation des femmes, la Women's March, l'énorme Women's March de l'année dernière. Gloria Allred soutient donc les manifestantes, puis se retrouve à un moment face à des supporters de Trump qui sont très, très déterminés. Et la confrontation vraiment est très impressionnante, en tout cas à l'image.
Eh ben, écoutez, on verra ça en tout cas, parce qu'on va rappeler quand même que c'est une sortie mondiale. Alors, cette femme, évidemment, un peu évoqué d'ailleurs dans ce qu'elle vous dit au début, Valérie soutient évidemment les mouvements MeToo et Time's Up, dernier en date.
Oui, alors elle est évidemment très déterminée, elle est de toutes les manifestations, elle défend plusieurs victimes d'Harvey Weinstein, accusées de harcèlement et agression sexuelle pendant des décennies par une centaine de femmes, dont plusieurs actrices célèbres.
Well, we don't know who knew what,
Nous ne savons pas qui savait et qui n'a pas parlé. J'ai engagé une procédure au nom de l'une des nombreuses victimes d'Harvey Weinstein que je représente. J'ai dit que c'était la première procédure, mais pas la dernière. La Weinstein Company devrait être vendue plutôt que d'être mise en faillite. Et il y a un groupe de femmes qui veulent l'acheter. Je les soutiens et elles soutiennent ma proposition. Quiconque rachète la compagnie doit financièrement dédommager les victimes de M. Weinstein quand il était salarié de l'entreprise, parce que je ne veux pas que les femmes passent par des années de procédure alors que nous pouvons résoudre le problème d'une autre manière.
My work is my life. It isn't just what I do, it's who I am. It's my identity.
Lorsqu'on lui demande par exemple de définir son métier, Gloria Allred répond « Mon travail, c'est ma vie, c'est ce que je suis, c'est mon identité, ouais. Carrément. »
Alors justement, d'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'elle n'a pas que des amis, hein, cette Gloria Allred. Elle est souvent accusée de se faire de la pub, d'être sans arrêt sur les plateaux télé, ce qui est vrai par ailleurs qu'elle y est souvent.
Oui, absolument. Alors ce sont souvent évidemment des ennemis, hein, ces ennemis qui l'accusent même parfois de mentir d'ailleurs. Ce sont ceux qu'elle attaque en justice, qui l'accusent de mensonges et aussi de faire de la com. Son engagement vient en fait de son histoire personnelle et ça, elle le rappelle maintenant, elle est mère célibataire au départ, assez jeune, puis elle est victime d'un viol, elle tombe enceinte à la suite de ce viol, et elle décide d'avorter à l'époque où l'avortement n'est pas du tout légal aux États-Unis, et elle manque de mourir à cause d'une infection suite à cet avortement, et depuis, eh bien, on peut dire que c'est une sorte de pitbull en fait.
Est-ce que vous pensez que vous faites peur à beaucoup de gens ?
I certainly hope so. For men who would deny rights to women,
j'espère que je fais peur. Aux hommes qui refusent leurs droits aux femmes, qui leur font mal, les agressent sexuellement, les violent, agressent leurs enfants, leur refusent le salaire qu'elles méritent. Oui, j'espère qu'ils ont peur, car nous les poursuivons légalement et politiquement. Mais nous avons une phrase dans le mouvement féministe. Un homme de qualité n'est pas menacé par une femme qui milite pour l'égalité. Et il y a beaucoup d'hommes qui viennent me voir et me disent « Merci, je veux un monde plus sûr et plus juste pour mes filles. Continuez à vous battre. »
I can't hear you.
No!
And do you think we still have a long, long way to go?
Yes!
It's the most beautiful oven I've ever seen.
She has a twist and turn waist, so you can pose her to serve lemonade to Ken.
Il faut avoir peur de rien hein, pour un documentaire avec la musique Gloria qu'on entend, une version Laura Bradigan. Le documentaire s'appelle Seeing All Red, Valérie, Voix Rouge. Il est signé Sophie Sartain. Ça sort sur Netflix le 9 février, 90 pays, dont le nôtre, évidemment, traduit en 25 langues différentes. On regardera ça avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Valérie Canty. À bientôt dans Un jour dans le monde. Je nous laisse, pas tout à fait, encore avec Rex Orange Canty, Sunflower sur France Inter.
I don't wanna see you cry. Don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why.
Sunflower, ça fait du bien avec une météo pareille. De toute façon, nous, on n'a pas de fenêtre dans le studio. Alors, Rex Orange County sur France Inter. Power Hit
Radio. BBC News. Al Jazeera. CBS Morning News.
France Inter.
Public Broadcasting.
Le 18-20.
Equals more reasons to watch.
Les médias, ouais. En 360, le buzz, les fakes, les infos qui comptent, pêcher dans la presse et sur la toile. Dorothée Barba, on démarre avec le fake de la semaine comme d'habitude et cette fois-ci il est dans la Bible.
Oui, c'est le pape François lui-même qui le dit. Il a délivré hier son message annuel sur la communication à l'occasion de la Saint-François de Sales, considéré par les catholiques comme le saint patron des journalistes. Et il invite ses fidèles à la vigilance sur les fake news. Nous pouvons reconnaître la véracité des informations par leurs conséquences, précise le pape, notamment si elle provoque des querelles, crée des divisions ou invite à la résignation. Et il prend en effet un exemple tiré de la Bible. Les arguments fallacieux du serpent pour inviter Ève à croquer dans le fruit défendu, eh bien ce sont les toutes premières fake news selon François. Il faut démasquer ce qui pourrait être défini comme la logique du serpent capable partout de se dissimuler et de mordre, lit-on encore dans ce message papal. Il cite un extrait de l'évangile selon saint Jean, « La vérité vous rendra libre ». Rappelons peut-être que François est très concerné par le sujet. Mmh. L'article expliquant qu'il soutenait Trump fut l'une des fausses nouvelles les plus partagées sur Facebook pendant la campagne présidentielle américaine. Mais voilà, la tentation des fake news est aussi vieille qu'Adam et Ève selon le Vatican.
Mais alors donc, si j'ai bien compris, le serpent Ève, on y croit, mais on ne croit pas au serpent. En
voilà,
gros,
c'est le serpent qui délivre une fake news hein, et non pas Ève, attention à ne pas confondre.
Exactement, l'actu média Dorothée, c'est aussi Oprah finalement, c'est non à la Maison-Blanche.
Voilà, alors. L'animatrice de télé américaine Oprah Winfrey n'est absolument pas intéressée par une éventuelle candidature, car ça n'est pas dans son ADN. Elle le dit aujourd'hui dans une interview au magazine InStyle. Les rumeurs allaient bon train, vous en souvenez, depuis son discours remarqué à la cérémonie des Golden Globes. Oprah, que tout le monde appelle par son prénom, est très populaire aux États-Unis, mais selon un récent sondage, seulement 35% des Américains souhaitaient la voir se présenter en 2020.
Voilà, preuve que ce pays n'est pas tout à fait perdu. Les chiffres de Netflix dévoilés hier.
Et ça va très bien, merci pour eux. Le groupe américain de vidéos à la demande revendique 117 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est 24 millions de plus en un an. Résultat, le titre en bourse s'est envolé. Pourtant, la concurrence est féroce avec Apple et Disney qui se lancent dans le streaming, tandis qu'Amazon renforce aussi son offre. Mais Netflix peut dire merci à la reine d'Angleterre.
Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth.
And long live Queen Elizabeth.
The Crown, une série que j'adore personnellement, qui raconte la vie d'Elisabeth II. C'est l'un des succès du moment sur Netflix, ça et le film Bright avec Will Smith. Le géant américain annonce d'ailleurs qu'il va investir 8 milliards de dollars dans les contenus en 2018. Alors la télé traditionnelle, elle, on la regarde de moins en moins partout dans le monde. Partout, non, un pays d'irréductibles résiste encore et toujours. La France est l'un des rares pays où la durée d'écoute de la télé hors SVOD est stable. C'est le résultat d'une enquête Médiamétrie. Les Français passent en moyenne 3h42 par jour devant le poste. Et c'est seulement une minute de moins qu'il y a un an. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, la baisse est de 14 minutes sur un an. Mais les Américains restent de gros consommateurs de téloche. 4h16 par jour en moyenne.
Allez, aux États-Unis toujours. Dorothée, une histoire de droit à l'image qui rapporte beaucoup.
Le chat grincheux, c'est son surnom. Ah oui. Grumpy Cat est une star star des réseaux sociaux parce qu'il fait toujours la tronche. Eh bien, sa propriétaire, qui diffuse régulièrement des photos de son chat sur le web, a signé de nombreux contrats de produits dérivés, notamment avec une marque de café. Mais la marque en question s'en est servie de ce contrat pour un autre produit non prévu. Résultat, elle a poursuivi la marque devant un tribunal californien. Elle vient d'obtenir gain de cause. Elle va toucher 710 000 $. À ce prix-là, tout le monde aime les chats, même vous, Fabienne.
Ah ben oui, vous m'étonnez. Et puis une girafe pour terminer. Vous êtes très animalière aujourd'hui. Allez savoir pourquoi. Et encore une fake news. Cette fois-ci, ça se passe en Belgique.
Voilà, même les journalistes de la RTBF se sont fait berner. La semaine dernière, le site de la télé publique belge publiait cette info. Un Namurois achète une girafe pour l'accueillir chez lui. Voilà, pourquoi pas, après tout. Cet hôtelier restaurateur comptait attirer du monde en installant une girafe dans le terrain juste à côté de son hôtel à Namur. Mais en fait, la girafe était une grue élévatrice, un engin de chantier, quoi. Il faut dire que le modèle de grue en question s'appelle girafe. Donc le monsieur n'a pas vraiment menti, ou alors il a menti par omission. Il en a profité pour faire parler de sa fondation de réinsertion professionnelle, puisque cette grue doit servir à former des chômeurs en reconversion. La RTBF s'est excusée d'avoir publié une fausse info, et cette histoire n'a d'intérêt que pour le jeu de mots utilisé par le monsieur qui a tout avoué à la télé.
La girafe, c'était un coup monté.
Voilà, le coup monté de la girafe, vous l'avez, évidemment,
ouais,
Fabienne.
Elle est pas mal.
Voilà, je vous l'accorde, nos Belges à nous sur France Inter font des blagues de plus haute volée.
Allez, merci beaucoup Dorothée Barba dans Un jour dans le monde. Et vous l'avez entendu, il est 19h sur France Inter.